Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La Mède dans les Bouches-du-Rhône, Donge en Loire-Atlantique, Dunkerque dans le Nord, Grigny dans l'Essonne, ce sont quelques-uns des sites stratégiques, carburants et raffineries bloqués depuis hier soir par des agriculteurs. Ils dénoncent les contradictions d'un gouvernement qui exige des normes aux agriculteurs qu'il n'impose pas aux produits agricoles importés. Reportage à Grigny, en région parisienne, dans un instant.
Les États-Unis ont accusé dimanche le Canada de trahison au cours du sommet du G7 qui s'est terminé sur un fiasco après la volte-face du président américain Donald Trump qui a menacé ses alliés de droits de douane alourdis.
En Europe, la France gagne fortement en attractivité économique et Paris fait de l'ombre à Londres. C'est l'enseignement de la dernière étude du cabinet EY qui enregistre les projets d'investissement. Les réformes engagées jouent beaucoup dans cette amélioration. C'est ce que nous dira Jean-Marc Chardon dans son billet économique à la fin de ce journal.
Et puis dans une quinzaine de minutes, Catherine, la question du jour, les candidats à l'élection présidentielle ont-ils profité de l'insuffisance de la loi sur le financement des campagnes électorales ? On posera la question à Romain Rambaud, professeur de droit public à l'Université de Grenoble.
Ils sont vent debout contre Nicolas Hulot et contre Total et bloquent ce matin 13 dépôts de carburant et des raffineries. Les agriculteurs, emmenés par la FNSEA, syndicat majoritaire de la profession, dénoncent la décision du gouvernement d'autoriser le groupe pétrolier à importer de l'huile de palme pour produire du biocarburant. Une concurrence déloyale, estiment les agriculteurs, ceux de la filière colza notamment, tournés vers les biocarburants. Eux doivent avoir une certification européenne durable, alors que l'huile de palme produite à l'autre bout du monde met à mal des écosystèmes, des forêts, avant d'être incorporée au diesel français. Bref, des contradictions au sein de l'exécutif, ce qui déplaise aux agriculteurs. Le reportage à Grigny, près de Paris, de Célia Quilleret.
Oui, une cinquantaine d'agriculteurs de l'Essonne sont ici depuis 2h du matin autour d'un brasero. Ils bloquent l'entrée du dépôt, ils ont tout prévu pour rester, un barnum, des boissons, des sacs de couchage. Frédéric Arnoux, des jeunes agriculteurs, est très déterminé.
Déjà, aujourd'hui, on a essayé de prévoir un maximum de vivres pour pouvoir tenir un certain nombre de temps dans la semaine. Et puis, on va organiser des roulements pour que ce ne soient pas toujours les mêmes agriculteurs qui soient présents sur le site. Mais je pense que ça devrait tenir. L'idée, c'est qu'on soit à peu près une cinquantaine d'agriculteurs sur chaque roulement pour être prêt à faire face si jamais, à un moment donné, aussi les forces de l'ordre cherchent à nous mettre dehors. Maintenant, s'il faut que ça dure plus de 3 jours, ça durera plus de 3 jours.
Et en effet, la goutte d'eau, c'est l'autorisation donnée à Total d'importer de l'huile de palme à la raffinerie de La Mède. Damien Greffin est producteur de colza en Île-de-France et responsable FNSEA dans la région. Il dénonce une concurrence déloyale.
On a envie de mener ce rapport de force par rapport au gouvernement. Je pense que la colère dans les campagnes est bien présente. Aujourd'hui, avec la volonté du gouvernement d'importer des quantités qu'on n'importe pas aujourd'hui d'huile de palme, on va finalement casser, mettre à mal finalement cette filière colza. Par exemple, si je prends mon exploitation, en fait, c'est à peu près 50% de la surface que j'exploite aujourd'hui en colza qui va disparaître.
Et sur les tracteurs, ce matin, les banderoles sont très claires. Stop, huile de palme. N'importons pas l'agriculture dont nous ne voulons pas. Aucun camion-citerne ne peut s'approvisionner ici à Grigny.
Célia Quilleret à Grigny, donc dans l'Essonne. Les tarifs réglementés du gaz pourraient augmenter de 6,5% à partir du 1er juillet prochain. Si le gouvernement suit l'analyse de la Commission de régulation de l'énergie, elle justifie cette forte hausse par celle des coûts supportés par Engie, le fournisseur de référence en matière d'approvisionnement, d'infrastructures, de stockage et de coûts commerciaux. Il est déjà arrivé à Singapour, mais explique ne pas avoir vraiment besoin de préparer sa rencontre demain avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Donald Trump a préféré consacrer son début de matinée à des tweets incendiaires contre ses partenaires du G7. Désolé, mais nous ne pouvons plus laisser nos amis ou nos ennemis profiter de nous sur le plan commercial. Nous devons penser aux travailleurs américains d'abord, a-t-il écrit, après une salve de messages contre les Européens et l'Allemagne en particulier, qui selon Donald Trump sont protégés par les États-Unis dans le cadre de l'OTAN, mais qui ne contribuent pas assez financièrement à leur sécurité, et de dénoncer également les déséquilibres commerciaux avec les États-Unis. C'est donc un Donald Trump furieux qui est à la manœuvre ce matin, lui qui a déjà renié hier sa signature de l'accord du G7 qui se déroulait vendredi et samedi au Canada, accusant le Premier ministre canadien de trahison, de malhonnêteté et de faiblesse. Justin Trudeau avait décidé de répondre lui aussi par des surtaxes au relèvement des taxes sur l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis depuis le Canada. Et c'est toute la classe politique canadienne qui fait front derrière Justin Trudeau, Pascal Guéricola.
Même le conservateur Stephen Harper, battu par Justin Trudeau lors des dernières élections, a défendu la position du Premier ministre actuel lors d'une entrevue à la station américaine Fox. Selon lui, le président américain devrait davantage forcer la Chine à ouvrir son marché plutôt que de s'en prendre au Canada. Un autre adversaire de Justin Trudeau, le chef conservateur de l'Alberta, une province de l'Ouest, soutient les actions prises par le Canada, qui n'a pas à se faire intimider par son partenaire commercial, selon lui. La ministre canadienne des Affaires étrangères maintient d'ailleurs la mise en place de surtaxes sur l'acier et l'aluminium provenant des États-Unis en réplique aux mesures américaines. Chrystia Freeland.
Canada does not conduct its diplomacy.
Le Canada ne pratique pas une diplomatie utilisant les attaques personnelles. Nous ne pensons pas qu'il s'agit d'une façon très productive de faire des affaires et nous nous abstenons encore davantage de ce type d'attaque quand il s'agit de nos alliés.
Le ton utilisé par la ministre reste cependant très modéré si on le compare à celui de Donald Trump. Plus de 2/3 des exportations canadiennes partent vers les États-Unis et le Canada ne peut donc pas se permettre de se montrer trop vindicatif face à ce puissant voisin. Un voisin que le père de Justin Trudeau, lui-même Premier ministre, comparait à un éléphant qui pouvait vous écraser sans le vouloir lorsqu'il partageait votre lit.
Et face au brusque revirement de Donald Trump à propos du G7, la France a dénoncé l'incohérence de la délégation américaine, tandis que l'Allemagne a accusé Donald Trump de détruire la confiance des alliés à coups de tweets, même si, et c'est un point sur lequel Angela Merkel a insisté hier soir à la télévision allemande, ce n'est pas la fin du G7.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutuy-Hilzer. En Méditerranée.
629 migrants qui ont été secourus par l'Aquarius, un navire de l'ONG SOS Méditerranée, se trouvent en ce moment entre Malte et la Sicile, rejetés par l'Italie puis par Malte, alors que le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, le chef de l'extrême droite italienne, est au gouvernement depuis une semaine maintenant. Les premières polémiques ont déjà éclaté avec les partenaires européens de l'Italie, dont Malte. Ce week-end, ce sont plus de 1200 personnes qui ont été secourues en Méditerranée, mais qui ont du mal à accoster en Europe, Olivier Tosseri.
Aucun changement de ton de la part de Matteo Salvini, qu'il soit candidat pendant la campagne électorale ou ministre de l'Intérieur. L'Italie ne doit plus être le camp de réfugiés de l'Europe, a-t-il annoncé, en promettant de refuser que les navires des ONG secourant les migrants en Méditerranée ne soient accueillis dans les ports italiens. Il a pourtant dû laisser entrer dans le port de Reggio Calabria le navire de l'ONG allemande Sea-Watch, avec à son bord 232 personnes, dont 17 femmes et de nombreux mineurs. Ce week-end, ce sont près de 500 migrants qui ont débarqué sur les côtes italiennes. Cela n'empêche pas Matteo Salvini de tirer un bilan positif de sa première semaine au sein du nouveau gouvernement.
La musica è cambiata. Vedremo di dare un taglio.
La musique a changé. Nous couperons dans les budgets pour l'accueil des migrants et nous réduirons les temps d'étude de leur dossier de demande d'asile. Ces gens restent chez nous 2 ans, 3 ans et ils peuvent pendant ce temps-là voler, frapper, agresser et en face on ne peut rien faire. On doit mettre un terme aux manœuvres de ces navires des ONG qui tournent en Méditerranée en direction de l'Italie. Si quelqu'un pense qu'on vivra un autre été comme ceux des dernières années avec débarquement sur débarquement, en levant les yeux au ciel sans bouger le petit doigt, eh bien ce n'est pas ce que j'envisage en tant que ministre.
Il devra en tout cas faire face à de nouvelles arrivées puisqu'au moins 700 personnes ont été secourues dans la nuit de samedi à dimanche et devront trouver refuge dans des ports italiens ces prochaines heures. Matteo Salvini a demandé l'intervention de l'OTAN en Méditerranée et veut immédiatement augmenter les expulsions. Des effets d'annonce faciles à brandir pendant la campagne électorale mais difficiles à mettre en œuvre une fois au pouvoir.
Olivier Tosseri à Rome pour France Culture. Russes, Allemands, Français et Ukrainiens se retrouvent aujourd'hui à Berlin pour tenter de relancer le processus de paix dans l'est de l'Ukraine au moment où la levée des sanctions européennes contre Moscou revient sur le tapis. Les ministres des Affaires étrangères des 4 pays vont se retrouver jusque tard dans la soirée pour discuter donc de l'insaisissable cessez-le-feu prévu par les accords de Minsk de février 2015, accord parrainé par Paris et Berlin. En Irak, alors que le pays s'apprête à recompter les voix des élections législative du mois dernier, marquée par de nombreuses allégations de fraude, un incendie a ravagé hier le dépôt où étaient stockés les bulletins de vote du secteur est de Bagdad. Les précisions de notre correspondant dans la région, Nicolas Fellman.
Il aura fallu des dizaines de camions de pompiers et plusieurs heures pour maîtriser l'incendie. À l'intérieur de ces entrepôts, les bulletins de vote de la plus grande circonscription d'Irak, la province d'Al-Roussafa. Devant les journalistes, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, le général Saad Man, s'est pourtant voulu rassurant.
Dans l'entrepôt qui a brûlé, il y avait du matériel ainsi que certains documents utilisés par la commission électorale. Nous avons vu quelques boîtes brûlées et il s'agissait d'urnes. Mais la majorité des urnes se trouve dans trois autres bâtiments qui n'ont pas été touchés.
Le scrutin législatif irakien du 12 mai, entaché de fraude, a pris des allures de feuilleton politique et judiciaire. De nombreux responsables réclament l'annulation du vote suite à la victoire du religieux Moqtada Sadr dans une alliance inédite avec les communistes. La semaine dernière, le Parlement annonçait un nouveau décompte des 10 millions de bulletins de vote. L'incendie d'hier s'est déclaré peu après la nomination de 9 juges, des magistrats chargés de remplacer la commission électorale et d'assurer le nouveau décompte.
À partir d'aujourd'hui, la neutralité du net n'existe plus aux États-Unis. La neutralité, c'est l'un des principes fondateurs d'Internet qui garantit que les fournisseurs d'accès ne donnent pas la priorité à un site plutôt qu'à un autre sur leur bande passante. Barack Obama s'était assuré en 2015 du maintien de ce principe, mais la Commission fédérale des communications a décidé de s'en débarrasser et pour certains, c'est la fin d'un Internet libre et ouvert, Loïc Piala.
Sans régulation, les fournisseurs d'accès à Internet auront les moyens d'améliorer leur réseau, y compris dans les régions les moins desservies. Ça, c'est ce qu'a assuré sur Fox News Ajit Pai, le président de la Commission fédérale des communications.
Ça va inciter les télécoms à investir. Les entrepreneurs auront accès à une plus large clientèle. Ce sera mieux pour le consommateur.
Mais les promesses de cet ex-avocat d'un géant américain des télécoms n'ont pas vraiment convaincu. Car techniquement, les fournisseurs ont maintenant le droit de forcer un site à payer s'il veut diffuser son contenu rapidement. Netflix peut se le permettre. Une petite start-up, pas forcément, et ça pourrait peser sur l'innovation. Surtout, les coûts supplémentaires seraient répercutés sur le consommateur. Rien n'empêche non plus les télécoms de segmenter leur offre avec un accès réservé aux réseaux sociaux ou aux sites de sport, par exemple. Il ne s'agit que d'hypothèses, mais le comédien Stephen Colbert ne se fait pas d'illusions.
Ne vous inquiétez pas, ces entreprises qui ont dépensé des millions en lobbying pour pouvoir bloquer, ralentir ou rendre prioritaire tout contenu sur Internet assurent qu'ils ne vont pas bloquer, ralentir ou faire apparaître comme prioritaire tout contenu.
Plusieurs États, dont la Californie, tentent désormais de défendre la neutralité du net à l'échelle locale.
Loïc Piala aux États-Unis pour France Culture.